Et j'en parlais en début d'émission, le défi sportif Altergo qui vient de démarrer, qui a commencé aujourd'hui ses compétitions. C'est 5 000 athlètes qu'on va retrouver à Montréal jusqu'au 1er mai. C'est évidemment l'événement le plus connu du défi sportif, mais le défi est quand même actif tout le reste de l'année, entre autres dans les écoles où ils donnent des outils aux enseignants en éducation physique pour bien inclure les jeunes en situation de handicap dans les activités des groupes réguliers. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone Mme Elsa Lavigne, directrice par intérim du projet Choisir de gagner. Bonjour Mme Lavigne.
Bonjour.
Donc, récemment, en fait, avec le projet Choisir de gagner, vous avez développé des petites capsules vidéo dans le but d'informer les enseignants sur les possibilités, les stratégies à adopter pour inclure des jeunes.
Exactement. On a lancé ce projet il y a quelques semaines afin d'outiller les enseignants qui avaient des jeunes en intégration, en fait, dans des classes au régulier, puis qui n'avaient pas forcément d'outils. Donc, on a fait des petites capsules, on en a sorti 5, on est très contents.
Et pouvez-vous nous parler un peu plus en détail des thèmes qu'on retrouve dans ces capsules?
Oui, bien sûr. En fait, on s'est basé sur le concept de littératie physique inclusive. Donc, ça parle pas forcément à tout le monde, mais la littératie physique, dans le fond, c'est ce que les mots sont au langage, mais au niveau du mouvement. Donc, quand on apprend à parler, par exemple, on apprend d'abord les lettres, ensuite on apprend les mots, ensuite on peut faire des phrases et puis on finit par faire des textes. Donc la littératie physique, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau du corps. Donc c'est d'adopter la confiance, en fait, et la compétence dans le plaisir pour adopter un mode de vie actif tout au long de sa vie. Donc c'est tant au niveau de déplacement que de la manipulation d'objets, des sauts, de tournées, et ce dans plusieurs environnements, donc sur la glace, dans l'eau, sur le sol. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de présenter aux enseignants, en mettant en vedette des enseignants qu'on connaît bien, qui participent aux défis sportifs, puis qui ont l'habitude de travailler avec ces clientèles-là. Mmh. On les a interrogés pour qu'ils puissent donner des outils concrets et pour motiver aussi leurs collègues du régulier.
Est-ce que, justement, le concept de littératie physique inclusive, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà enseigné? Est-ce que c'est quelque chose que les enseignants peuvent voir, par exemple, durant leur formation, mais n'applique pas nécessairement sur place, ou c'est vraiment quelque chose de nouveau?
C'est quand même assez récent au Canada en tant que tel, là, la façon dont c'est conceptualisé, parce qu'en éducation physique, on va apprendre les mouvements fondamentaux de base. C'est un peu comme ça qu'ils apprennent dans les cours d'éducation à l'université avant de devenir enseignant. Mais ça s'applique seulement au mouvement. Tandis que ce que la littératie physique vient ajouter à ça, c'est un petit peu les notions de plaisir, de confiance en soi, qui ne s'arrêtent pas juste à la capacité de faire un mouvement avec son bras du point A au point B, mm-hmm. mais c'est la capacité d'être à l'aise dans ce mouvement-là et de pouvoir l'appliquer à d'autres situations, donc pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours, tout au long de la vie.
Mm-hmm. Donc, pas seulement non plus dans le cadre d'un cours d'exercice d'éducation physique, par exemple, à l'école.
Non, pas du tout, c'est ça. C'est dans tous les cercles possibles de la vie quotidienne.
Est-ce que ce concept est au cœur du programme « Choisir de gagner »
Pas tout à fait, mais c'est un outil très intéressant pour nous, parce que nous, ce qui est au cœur de notre programme, c'est les saines habitudes de vie. Donc, pour les saines habitudes de vie, on remarque qu'il y a plusieurs concepts qui peuvent venir nourrir ça, puis donner cette confiance-là aux jeunes pour les adopter. Donc, ça peut être la littératie physique, mais c'est aussi l'accessibilité universelle. Donc, dans les vidéos, notre première vidéo est une capsule d'introduction qui va venir présenter ce qu'est la littératie physique et l'accessibilité universelle comme des outils pour, en fait, rattraper les statistiques qu'on peut constater chez les jeunes qui ont limitation fonctionnelle, là, c'est 2 à 3 fois plus d'obésité. Mmh. Donc, si on agit sur l'accessibilité universelle et puis qu'on leur donne plus d'outils pour être actifs, éventuellement, cette statistique va être un petit peu moins importante. Donc, c'est un petit peu ça, l'introduction. Là, si vous voulez regarder cette capsule, c'est la mise en contexte. Donc, on va présenter pourquoi ces jeunes-là sont moins actifs et comment on peut faire pour les aider.
Mm-hmm. Oui, justement, parce que, bon, on parle de prévention, entre autres, pour garder un corps en santé, mais un esprit en santé aussi, parce que le sport est souvent un moyen de développer son réseau, sa confiance en soi.
Exactement.
Il y a beaucoup d'impact au niveau physiologique.
Il y a beaucoup d'impact sur la persévérance scolaire aussi, là, ce qu'on note beaucoup. là, c'est que des jeunes qui font partie d'une équipe sportive ont beaucoup plus le goût d'aller à l'école puisqu'il y a quelque chose qui va les attirer davantage. Donc, par exemple, là, on le voit aujourd'hui au défi sportif, là, il y a beaucoup de jeunes qui n'auraient pas eu l'occasion de pratiquer un sport d'équipe. Et en ayant cette occasion-là au sein de leur école, ça leur donne une motivation toute l'année pour s'entraîner et pour éventuellement participer à une compétition. Donc, ça les encourage à rester à l'école aussi.
Pourquoi avoir choisi le format des vidéos?
En fait, cette année, on avait un peu plus de difficultés à rejoindre les commissions scolaires parce que vous êtes au courant du contexte. Là, il y a eu plusieurs moyens de pression. Donc, c'est sûr que c'était plus difficile pour nous de nous déplacer. Donc, on s'est dit, on peut pas rester comme ça. C'est la dernière année du projet. Il faut qu'on donne des outils à ces enseignants-là. Donc, on a trouvé cette solution qui est la vidéo. Au début, on voulait faire des webinaires qui sont un peu des formes de séminaires, conférences, en ligne, mais on s'est dit qu'on voulait aussi en faire un outil vraiment de promotion qui vienne motiver les gens, donc on s'est tourné vers ces capsules-là, ce qui nous permet de rejoindre un réseau beaucoup plus important, puisqu'en plus, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais elles vont être bilingues, on les a enregistrées avec certains intervenants anglophones, et d'ici 2 ou 3 jours, on va recevoir des sous-titres qu'on va pouvoir intégrer directement aux vidéos, donc elles pourront être regardées en français, en anglais, et aussi accessibles pour les personnes qui ont une déficience auditive.
Et c'est justement dans le contenu, on l'a abordé brièvement, le contenu qu'on retrouve dans certaines de ces capsules. On parle de sport dans l'eau, sur la glace, au sol. Avez-vous des exemples, un exemple à nous donner justement de qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel, par exemple, pour nous aider à inclure un jeune en situation de handicap dans un sport dans l'eau?
Bien sûr, on peut avoir toutes sortes d'objets flottants, je dirais, qui peuvent aider le jeune à se familiariser. À se familiariser avec le milieu s'il sait pas nager directement, ça vient l'aider en fait au niveau de sa confiance. Souvent ce qu'on va conseiller par exemple, c'est avant de faire le grand saut, c'est de s'asseoir juste au bord du bassin, puis de s'amuser un petit peu avec l'eau, d'utiliser des éponges, des choses comme ça. En fonction de la clientèle, on utilise l'aide de personnes, bénévoles ou enseignants qui vont venir aider les jeunes à tenir dans l'eau. Ou alors des outils plus techniques. Mais donc ça, pour l'eau, c'est plus la peur de l'eau sur laquelle il faut travailler. Donc on va y aller dans les stratégies de communication. Mais pour la glace, par exemple, un jeune qui a une déficience motrice pourra s'installer en fait sur des patins qui sont sous une luge. Donc au lieu d'être debout, il va être dans une luge sur patins. Ça peut être ça. En fait, on a ciblé 4 principaux éléments qu'il faut prendre en compte pour l'adaptation là, en fonction de ces différents milieux. C'est l'environnement physique. D'abord. Ensuite, c'est la communication qui est vraiment très importante. C'est les stratégies de l'intervenant au niveau de comment il va enseigner les tâches, comment il va adapter les tâches. Et la quatrième m'échappe, mais dans le fond, c'est ça, on essaye d'englober vraiment toutes les possibilités pour inclure ces jeunes.
Tout à fait. Et je sais que ça fait partie aussi du travail des intervenants de d'abord se renseigner sur la limitation fonctionnelle du jeune pour voir. Et même, le jeune, parfois, a souvent développé ses propres stratégies.
Exactement.
Aussi. Et donc, de les inclure. Qui sont les intervenants avec qui vous avez travaillé pour l'élaboration de ces capsules?
En fait, on a travaillé surtout avec des intervenants qu'on connaît bien puisqu'ils viennent depuis des années au défi sportif. Donc ça va être des enseignants dans des écoles spécialisées ou auprès de classes spécialisées de différentes clientèles. Donc on a vraiment essayé de viser assez large. On a aussi des gens qui travaillent dans des centres de réadaptation qui nous ont donné un coup de main. Un enseignant en activité physique adaptée. Puis c'est ça, différents organismes aussi qui ont développé une expertise spécifique auprès de certaines clientèles. Parce qu'on est parti du principe que nous, on n'a pas l'expertise. On a l'expertise de terrain à l'interne avec le défi sportif, mais on ne peut pas connaître 100% les limitations de chaque jeune. Mais comme on a ces gens-là à disposition, en tout cas, on a un très bon contact avec eux, puis on leur fait confiance, on a décidé de leur donner la parole, puisque c'est vraiment eux nos ambassadeurs.
Est-ce que c'est une demande que vous avez reçue peut-être du corps professoral ou c'est plutôt un besoin que vous remarquez de justement, parce qu'on parle, les intervenants qui ont contribué travaille dans des écoles spécialisées. On sait que dans les écoles spécialisées, il y a souvent les ressources nécessaires. Il y a une ouverture, une sensibilisation qui est peut-être moins présente dans le réseau régulier. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'était une demande du réseau régulier ou c'est plutôt un besoin que vous avez remarqué et que vous venez répondre?
C'est un peu les deux parce qu'on se déplace beaucoup dans les écoles depuis les 3 dernières années puis on a rencontré beaucoup d'enseignants du régulier. Et en effet, ils ne cessent pas de nous dire qu'ils manquent d'outils. Ils manquent d'outils, ils manquent de temps aussi souvent pour aller faire leurs recherches. Donc ce format-là était intéressant pour nous, justement parce qu'il y a un gros besoin. Souvent, ces enseignants voient des jeunes qui ont une limitation une fois de temps en temps. C'est jamais le même jeune, c'est jamais la même limitation. Donc souvent, ils ne savent pas quoi faire et ils n'ont pas forcément le temps de se renseigner puisqu'ils en ont 30 dans leur classe. Donc on s'est dit, avec un format court comme ça, donc c'est 5 vidéos de à peu près 3 à 5 minutes, on était capable de leur donner un condensé d'outils qu'ils pourront utiliser et aussi surtout une source de motivation.
Tout à fait. Donc, si ces enseignants veulent avoir plus d'informations une fois qu'ils ont visionné les capsules, comment est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'il y a d'autres types d'outils à leur disposition avec le projet Choisir de gagner?
Oui, exactement. En fait, toutes les stratégies dont on a parlé tout à l'heure et qui se retrouvent dans les vidéos, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. C'est des choses qu'on a trouvées dans des ressources qu'on a récoltées un petit peu partout, sur Internet notamment, et pas seulement au Québec aussi. On a des ressources en anglais puis des ressources qui viennent d'Europe. Et on a travaillé très fort pour condenser tout ça sur le site choisirdegagner.com. Donc, il y a une section ressources dans laquelle il y a de nombreux ressources disponibles, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les intervenants plus au niveau, je dirais, des décideurs. En ce qui concerne l'accessibilité universelle, il y a des ressources très pratiques, il y a des plans de cours du Comité paralympique canadien, on a des plans de cours de certaines fédérations, par exemple l'Association des sports pour aveugles du Québec. On a vraiment beaucoup de ressources pour les enseignants à cet endroit-là.
Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui de nous parler de ces nouvelles capsules vidéo et ce concept de littératie physique inclusive que, pour ma part, j'ai découvert aujourd'hui. Vous êtes au défi sportif toute la semaine.
Oui.
On vous souhaite... Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
Oh, ça se passe très bien. Aujourd'hui, c'était la première cérémonie d'ouverture. Donc, on a accueilli plus de 600 jeunes. C'était un très beau moment.
Ben, on vous souhaite vraiment une belle semaine remplie de belles compétitions. Ça va être à surveiller, évidemment, sur les ondes de Canal M. On va pouvoir aussi vous faire certains comptes rendus chaque jour. Elsa Lavigne, vous êtes directrice par intérim du projet Choisir de gagner. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup. Au revoir.